voudrais vous raconter l'histoire de la beauté, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme que la vie a blessé, un homme à qui la vie a pris beaucoup. Oh, pas tout, mais beaucoup, beaucoup trop. Pendant des semaines, des mois, il reste sous le choc. Il ne sait plus qui il est. Il ne se souvient plus de ce qu'il a aimé, de ce qui pouvait bien, dans sa vie d'avant, lui réchauffer le cœur et lui donner la force de se lever le matin. Son thérapeute l'aide à tenir, les médicaments l'aident à tenir. Il tient, mais rien de plus. Pas une once de vie en plus que tenir. Pas de joie, pas de désir, pas d'élan revenu, pas de souffle retrouvé. Il tient, mais rien ne lui revient. Et puis un jour, il y a cette lumière. Cette lumière, c'est celle du ciel de Saint-Malo qui se reflète à la surface de l'eau. Il y a des endroits sur Terre où le ciel est plus grand. Il n'a jamais vu un ciel si grand. C'est une lumière irréelle qui soudainement l'enveloppe. Cette lumière, il ne la regarde pas, il ne la voit pas, il la sent. Elle le traverse, le révèle, le réchauffe malgré le vent glacé, elle le relève. Il n'est pas devant le paysage, mais dedans. Et ça fait un bien fou. Il ne dit rien. Même pas c'est beau, même c'est beau, il ne le dit pas. Car le dire, ce serait encore jugé, ce serait encore décidé. C'est plus qu'un paysage, c'est plus qu'un tableau. C'est une force pure qui rentre en lui pour le sauver. Il n'est pas croyant, n'a pas lu Dostoïevski. Il ne sait pas que Dostoïevski a écrit que la beauté sauvera le monde. Ce chant lexical du salut, c'est pas trop son truc. Lui, le maire, le moqueur. Lui qui manie l'ironie mieux que personne. Mais là, c'est différent. Il découvre la puissance du premier degré. La beauté du monde rentre en lui pour le sauver avec l'autorité d'un fleuve que rien n'arrête. Il se souvient d'une phrase d'un écrivain français, Eric Holder. L'océan sur la plage revenait avec des plénitudes de femmes enceintes, ou quelque chose comme ça. Il se souvient qu'il a follement aimé cet écrivain français, et c'est un peu de son amour de la vie qui revient. C'est un grand espace en lui qui s'ouvre soudainement, un nouvel espace du possible, un grand espace pour désirer, pour aimer, pour vivre enfin, pour revivre surtout. Mais comment est-ce possible? D'où vient ce pouvoir de la beauté? Un ciel qui se reflète sur la mer, ce n'est pourtant qu'un peu de gris sur du bleu. Même si le gris est lumineux, même si le bleu est beau, un bleu clin, un bleu azur, ce ne sont que formes et couleurs superficielles par définition. Par quel miracle la beauté des apparences peut-elle nous apporter la délivrance? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir la dessinatrice Catherine Meurice, auteure notamment de La Légèreté, des Grands Espaces, de Delacroix, qui nous a rejoints sous le soleil de Platon pour poser avec nous cette belle question. Et si la beauté pouvait nous sauver?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Catherine Meurice, bonjour.
Bonjour Charles Pépin.
Alors vous avez 4 heures.
Mais non, vous avez tout résumé. Cet homme dont vous parliez, cet homme, c'est moi.
C'est vrai?
Oui, oui, je me suis retrouvée dans votre intro.
Et oui, je pensais un peu à ce que vous avez effectivement raconté dans La Légèreté, ce moment où la beauté vient vous parler en fait.
Oui, oui, exactement. Et dans votre petite fiction, vous évoquiez un ciel, et c'est vraiment comme ça que la beauté a commencé à rentrer un petit peu, à taper à la porte après l'attentat contre Charlie auquel j'ai échappé. C'est que j'ai vu un ciel. Un ciel gigantesque et j'ai été transpercée, traversée par ce paysage, ce que je raconte dans les premières pages de La Légèreté, et ça a commencé comme ça. Comme vous dites très bien, la découverte du premier degré. Ça, ouais. C'est énorme pour une dessinatrice caricaturiste qui passe son temps à se foutre de la tronche de tout le monde et d'essayer de ne jamais être au premier degré. Là, soudain, ouais, découverte du premier degré, et c'était un délice. C'était une expérience inédite. Et
alors, c'était pas à Saint-Malo, c'était où?
C'était au Pila, sur la dune du Pila.
Ah oui, oui.
En plus, on est en hauteur, donc c'est pas qu'on domine la mer, parce qu'on peut pas la dominer, enfin l'océan, mais on a une vue comme ça de vous savez, on voit l'horizon qui s'arrondit, donc on a vraiment conscience qu'on est sur une planète, ouais. En plus, donc c'est extrêmement troublant et sublime.
Mais alors, ce qui vous a fait du bien à ce point, est-ce que c'est la beauté de la nature? Je dirais, en fait, dans sa réalité, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose de physique, il y a des énergies, il y a quelque chose qui est là. Ou est-ce que c'est quelque chose de mystique, au sens où cette beauté ferait signe vers autre chose qu'elle-même?
Alors, je ne suis pas du tout mystique, mais il y avait quelque chose presque de cet ordre-là, en tout cas dans ce cas précis d'un choc post-traumatique après, ouais. Après un événement dramatique. Donc il y avait peut-être voilà, quelque chose proche du mysticisme, mais en même temps, je sentais vraiment la nature, c'est-à-dire les éléments naturels, le vent, le sable, et j'avais l'impression que ma perception était augmentée, c'est-à-dire que je pouvais, que mes yeux étaient encore plus forts que d'habitude pouvaient voir, derrière les nuages, à travers les nuages, je sentais le vent, ou alors le vent était en moi, enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, et pour autant, dans la légèreté, dans l'album La Légèreté, je n'ai jamais utilisé le mot mystique, jamais. Parce que c'est pas. J'utilise le mot croyance à un moment donné.
Oui,
je crois
à
la beauté. Mais je suis une athée pure et dure, donc tous ces mots, je les manipule avec précaution.
Dans La Légèreté, il y a justement ce dialogue entre le personnage, donc c'est vous, et puis une grenouille, hein,
oui.
dans une mare. Et la grenouille, c'est elle qui lui dit mais si, la beauté, Rothko, Turner. Je voudrais être submergé par la beauté, dit-elle, enfin dites-vous, comme Stendhal, objecte, enfin répond la grenouille. Je ne me souviens plus de Stendhal. Et la grenouille dit, lors de son voyage en Italie en 1817, il a été cerné par les œuvres d'art, il a été pris de vertige. Et elle continue, la grenouille, elle est trop mignonne. Depuis, on appelle ça le syndrome de Stendhal, l'évanouissement que tout un chacun peut avoir face à un déluge de beauté. Et elle fait la planche, elle est alourdie, elle n'a pas encore la renaissance, et elle dit, c'est ce qu'il me faut.
Et oui, je cherchais... Sans doute très naïvement, mais j'étais perdue, comme tous mes copains de survivants de Charlie à ce moment-là, j'étais perdue et je cherchais un choc esthétique, un choc qui pouvait annuler le choc du 7 janvier.
Voilà, c'était le syndrome de Stendhal contre le syndrome du 7 janvier.
Du 7 janvier, ce qui était une quête, je pense, perdue d'avance, en tout cas telle qu'elle était formulée comme ça, mais j'avais cette phrase en tête, je cherchais un choc esthétique, oui, je suis tout de suite vers l'esthétique, et je suis allée à Rome, en Italie, j'étais attirée par la douceur de l'Italie, la culture aussi italienne, et puis c'était pas très loin de la France, donc je pouvais ne pas aller trop loin de chez moi. Et je n'ai pas du tout trouvé le syndrome de Stendhal.
Oui, alors en Italie, vous cherchiez plutôt la beauté des tableaux.
C'est-à-dire que je cherchais rien du tout, mais j'ai trouvé certaines choses. Ce qui était très très étonnant, c'est que j'ai quadrillé la ville, j'ai arrêté de marcher toute seule dans la ville de Rome, et puis j'ai vu tous les musées. Et dans les musées, j'étais étrangement attirée par toutes les statues qui étaient abîmées, démembrées par le temps, parfois aussi par des saccages antérieurs, mais. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris que je voyais là les corps de mes amis de Charlie que je n'avais pas vus, j'avais juste entendu le son de leur mort en quelque sorte et là je voyais avec douceur, ça qui était très très étonnant, très troublant. Je les voyais réincarnés dans des marbres magnifiques. Donc c'est là que la beauté prenait tout son sens.
Vous ne les voyez en plus pas directement.
Bien sûr,
au fond,
oui, c'était vraiment une médiation.
À travers des figures mythologiques, d'ailleurs.
Exactement.
Et ça me rappelle la phrase de Nietzsche que vous mettez en exergue de votre magnifique album La Légèreté. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Comment vous l'entendez cette phrase?
Alors, comment dire, de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'au moment où je suis tombée sur cette phrase, vraiment par hasard, pour moi, la vérité, je confondais la vérité et le réel, la réalité. Donc je disais, l'art va me permettre d'être un parapluie, un paravent, enfin voilà, il va créer une séparation entre moi et le réel. Et le réel, c'était la mort de mes amis, la violence du 7 janvier, le chaos, etc. Et puis en cheminant, en continuant de faire cette bande dessinée, de la dessiner, en retrouvant un peu ma capacité à dessiner, j'ai entendu autre chose dans cette phrase, en fait. Mais il y avait toujours cette idée que l'art est un prisme qui nous permet d'aborder la vie différemment et de pas, je sais pas comment vous l'interprétez, vous philosophe.
Alors justement, je vais vous soumettre, il y a deux interprétations qui sont opposées en fait. Il y en a une qui vise à dire, alors je mets ma casquette de prof, ça ne durera pas longtemps, je rassure tout le monde. Première interprétation, c'est dans l'art, il y a une vérité qui nous sauve. Deuxième interprétation, qui est en fait celle de Nietzsche dans le texte, mais c'est très discutable, c'est qu'en fait, non, l'art, c'est faux, c'est une illusion. Et c'est la seule manière de supporter, c'est cet éloignement dans l'illusion qui est la seule manière, en fait, de supporter une vérité qu'il est impossible de regarder en face.
Oui.
Ce qui me paraît très intéressant dans votre cas.
Oui.
Puisque le
oui.
massacre, hein, c'est pas un attentat, c'est un massacre qui vous a enlevé des amis, des êtres chers, et qui a failli vous tuer vous-même. En fait, c'est impossible à regarder.
C'est impossible à regarder. Exactement. Et ce que j'arrivais à regarder, c'était donc ces statues au Forum romain, au Palazzo Massimo, etc., des statues de déesses, de dieux, etc., abîmées, mais beaux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à circonscrire un peu la violence de l'attentat et de redonner aussi un peu de chair, de matière au temps. Enfin, c'était assez... Il y avait quelque chose de merveilleux dans toute cette horreur, en fait. C'est ça qui
et alors, dans un autre album, Les Grands Espaces, vous parlez d'une autre beauté, et j'aimerais bien qu'on les compare. C'est puisque vous racontez que dans votre enfance, déjà, vous étiez très sensible à la beauté des tableaux, notamment des tableaux qui représentent la nature, des tableaux de Corot, de Watteau, de Poussin, et que très jeune, déjà, quand vous alliez au Louvre avec vos parents, vous cherchiez à retrouver dans la peinture des paysages naturels. D'où la question, est-ce que vous croyez que la beauté naturelle a un pouvoir analogue à celui de la beauté picturale? Est-ce qu'ils se répondent? Lequel, finalement, vous nourrit le plus de force?
Alors, je dirais que les deux se répondent. Ce qui est peut-être plus puissant, c'est ce que je dirais aujourd'hui, peut-être pas au moment quand j'étais plus jeune, et peut-être même je pensais pas ça au moment où j'ai écrit Les Grands Espaces, ce qui est le plus puissant, je crois, c'est de contempler la nature, parce qu'on contemple la force créatrice. On contemple une force créatrice, quelque chose qui est au-dessus de nous, enfin qui est, et ça c'est très inspirant et c'est sans fin. Et j'aime beaucoup cette phrase de Rachel Carson, la biologiste, qui était connue dans les années 60 pour avoir publié Printemps silencieux, où elle parlait de la dévastation par les pesticides des oiseaux aux États-Unis et des insectes. Et elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on est touché par la beauté de la nature, etc. Et c'est que face à la nature, on n'est jamais seul. Face au vivant, on ne sera jamais seul, jamais. Et donc, ça peut nous sauver en quelque sorte, parce qu'on ne sera jamais là de l'existence, quoi. Il n'y aura jamais cette sorte de lourdeur. Et donc, je mettrai au-dessus cette beauté de la nature qui nous embrasse, qui nous englobe, parfois nous submerge, qui nous traverse. Après, ce que j'aime dans la contemplation de ces peintures ou de ces œuvres d'art qui représentent la nature, c'est qu'il y a le geste de l'artiste, donc il y a un geste humain, il y a une personnalité, il y a un regard. Et là, on pourrait citer Proust qui dit le plus beau des voyages. Je vais le dire très mal. Hein, le plus beau des voyages, c'est de regarder à travers les yeux des autres. En fait, c'est pas d'aller à Pétauchnock. Bah, Proust ne disait pas ça.
Alors, ce que je vous propose, je vous ai préparé ce texte, justement. Je vous propose de vous le lire pour que on entende résonner la voix de Proust, telle que vous en parlez très bien dans votre album, d'ailleurs. Chaque artiste, donc Marcel Proust, dans La Prisonnière. Chaque artiste semble ainsi comme le citoyen d'une patrie inconnue, oublié de lui-même, différente de celle d'où viendra, appareillant pour la terre, un autre grand artiste. Je saute quelques lignes. Hein. Cette patrie perdue, les musiciens ne se la rappellent pas, mais chacun d'eux reste toujours inconsciemment accordé en un certain unisson avec elle. Mais alors, n'est-ce pas que ces éléments, tout ce résidu réel que nous sommes obligés de garder pour nous-mêmes, l'art, le fait apparaître, extériorisant dans les couleurs du spectre la composition intime de ces mondes que nous appelons les individus, et que sans l'art, nous ne connaîtrions jamais ? Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permise de traverser l'immensité, ne nous servirait à rien. Car si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Et là, on y vient, à ce que vous citiez, le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons, avec un peintre comme Elstir, avec un musicien comme Vinteuil, avec leurs pareils, donc les artistes, nous volons vraiment d'étoile en étoile. Je crois que vous adorez ce texte.
Ah oui, j'adore ce texte. Une fois, je l'ai vu sur un quai de gare à Florence, en Italie. C'était pour vanter les voyages en train. Bon, ça n'avait aucun rapport, mais oui, j'adore ce texte, oui. Et je, oui, je le trouve très juste. Hein, souvent, Marcel dit, voilà, j'ai l'impression qu'il a écrit des choses pour moi. Enfin, tous les lecteurs de Proust ouais. le ressentent comme ça, je crois. Et c'est exactement ça. On a besoin de, oui, oui, de ce voyage-là à travers les yeux des artistes pour comprendre le monde.
Et alors, dans les grands espaces, il y a un rapport en fait entre cette beauté naturelle et la beauté des livres. Très singulier, puisque vous associez les livres aux arbres sous lesquels vous les avez découverts et lus. Alors ça, c'est marrant, parce que là, on a les deux types de beauté. Ça a peut-être aussi participé de ce qui s'est passé plus tard, quand, après le choc de Charlie, vous avez réussi à vous retrouver un peu, à vous ressourcer dans la beauté de la nature. C'est parce que cette beauté de la nature est quand même associée à des œuvres d'art humaines. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette relation entre les arbres et les livres, et puis avec des exemples, peut-être ? Quel livre sous quel arbre ?
Ah non, j'ai deux exemples en tête précis. J'ai lu, j'ai dévoré le Comte de Monte Cristo en été sous un pin d'Alep.
Donc Dumas, c'est le pin.
Dumas, c'est le pin, avec cette odeur méridionale. Et Zola, La Faute de l'abbé Mouret, qui parle donc que je cite dans Les Grands Espaces, je m'amuse un peu de avec ce roman. Qui parle notamment d'un jardin, le Paradou, un jardin merveilleux, etc. Je l'ai lu dans le verger, dans un verger sous un pommier.
C'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, vous souvenez peut-être du livre grâce au souvenir de l'odeur.
Exactement, ouais. Ouais. Mais ça aussi, Proust en parle, hein, sur la lecture, il parle vraiment de ça, de des lieux qu'on retient presque plus que les œuvres, de cette mémoire-là. Qui est très précieuse, ouais, ouais.
Ouais, on a reçu à ce micro Lionel Nakache, qui expliquait qu'il y avait une spatialisation de la mémoire épisodique, ça veut dire qu'en fait, on se souvient des choses en les associant à des lieux.
Oui.
Donc c'est exactement pour ça que vous vous souvenez très bien de Dumas sous ouais. le pin, ou de Zola, c'est ça, sous quel arbre ?
Ouais, ouais, Zola sous un pommier, ouais. Qui avait achevé de fleurir. Oui, je me souviens.
Et c'est ce que confirmait aussi la Mathilde Laurent, qui a aussi été à ce micro, qui est le nez de quartier. Et donc ça, c'est une découverte récente d'ailleurs, hein, qu'au fond, la mémoire est spatialisée. Finalement, oui. Il y a des neurones comme ça qui sont associés à des lieux, des neurones de lieux, ça s'appelle. On va fêter tout ça en écoutant Feeling Good de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new C'était l'incroyable Nina Simone, Feeling Good.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Catherine Meurice, l'auteur de La Légèreté, des grands espaces notamment, de Delacroix, et puis bientôt de La Jeune Fille et la Mère.
La Jeune Femme et la Mère.
La Jeune Femme, pardon, et la Mère, qui sort le 29 octobre prochain. Mais sachez que j'ai devant les yeux donc la double page finale de La Légèreté, que je vais essayer de décrire. Donc, je fais souvent ça à la radio, c'est un truc qui ne marche pas du tout, mais je décris des bandes dessinées. Donc voilà, donc c'est une jeune fille, donc c'est la narratrice, c'est vous, toute seule, sur une grande plage. Il y a un aplat comme ça de sable jaune, et puis il y a la mer et le ciel, une immensité bleue. Et c'est la conclusion donc de cette quête. À quoi bon chercher le syndrome de Stendhal? Donc c'est cet éblouissement, évanouissement devant la beauté. Finalement, je l'ai eu, mais à l'envers. D'abord, l'évanouissement intérieur dû au choc de l'attentat, puis au réveil, l'obsession de la beauté. Et puis, sur la page de droite, donc c'est la fin de l'album, c'est très beau, c'est très apaisant, en fait. Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et l'équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins intensément, mais on se souvient d'avoir vu. Je compte bien rester éveillée, attentive aux moindres signes de beauté. Cette beauté qui me sauve en me rendant la légèreté. Donc c'est très beau, cette fin. Vous pouvez nous expliquer comment ça... C'est moins intense, mais c'est plus précis.
Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, un choc traumatique, bon, ça bouleverse, enfin, c'est visible. On aurait scanné mon cerveau le 7 janvier. Ça se voit. Un neurologue pourrait mieux en parler que moi, mais voilà, trauma se voit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu partiellement la mémoire. Je ne savais plus comment dessiner, je ne savais plus vraiment mettre mes personnages dans des décors, dans la perspective, je savais plus rien faire. Je n'arrivais plus à manger, enfin j'étais vraiment à côté de moi-même, c'était bon voilà, tous mes amis de Charlie pourraient témoigner de la sorte. Mais alors il me restait la perception. C'est-à-dire que mais c'était énorme, il me restait plus que ça. Et comme je le disais tout à l'heure, j'avais l'impression de voir mieux que quiconque, de sentir les choses, enfin vraiment d'être hyper sensible, mais hyper hyper sensible. En m'éloignant du choc traumatique, du choc du 7 janvier, en cheminant, en retrouvant le dessin, en étant entouré de mes proches, de ma famille, etc. Ma santé s'est améliorée, la mémoire est revenue, et j'ai commencé à voir moins bien, enfin c'est-à-dire à voir comme avant, c'est-à-dire normalement. Et donc tous les signes que je pouvais voir partout dans la nature, dans les musées, dans les où je pouvais, j'ai l'impression de voir des signes. Ça aussi, des gens de Charlie pourraient témoigner exactement, faire exactement le même témoignage. Bon, mais là, les signes se sont un petit peu évanouis. Il y en avait moins.
C'est très intéressant parce que c'est à la fois un retour au réel.
Ouais.
Et en même temps, l'intensification d'une acuité de perception.
Ouais.
Et finalement, cette acuité de perception, c'est à la fois une définition de l'artiste, mais aussi de la folie. Parce que quand c'est trop,
exactement,
c'est trop.
Exactement. Et en 2015, je n'ai pas arrêté de répéter que j'avais peur de devenir folle. Et j'étais persuadée que j'allais devenir folle. Et le livre, la bande dessinée, le dessin, la création ne m'a jamais autant paru salvatrice. Parce que... Oui, vraiment, ça m'a aidé à ne pas devenir complètement dingue. Et je suis redevenue, je suis redescendue un peu sur terre, et surtout, comme je dis à la fin, j'espère me souvenir, enfin, je crois que je me souviens d'avoir vu aussi intensément. Je me souviens de cette acuité. Et ça m'aide dans mon boulot aujourd'hui, dans mon travail de dessinatrice. Je sais que j'ai vu, je sais que je vois moins bien aujourd'hui, mais il s'est passé quelque chose, donc je reste un peu en éveil, en alerte. Et j'espère que ça rend mon dessin un petit peu, alerte également, quoi. Ouais. Voilà, pas trop avachi.
Et ça, c'est intéressant parce que si on revient sur la phrase de Nietzsche, ça veut dire que justement, pour le coup, vous n'êtes pas Nietzschéenne au sens propre, parce que du coup, on voit plus le réel. On sort de l'illusion, on sort du leurre, et on est connecté au réel. Cette phrase, je compte bien rester éveillée, attentive aux moindres signes de beauté, c'est presque une profession de foi, de vie d'artiste, et presque jusqu'au bout.
Et ce qui s'est passé d'ailleurs après La Légèreté, c'est vraiment une bande dessinée charnière, c'est qu'avant La Légèreté, j'ai fait Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, etc. Et je faisais référence aux artistes, mais je les mettais sur scène comme des comédiens. Et moi, j'étais le metteur en scène qui distribuait les rôles, et je m'amusais beaucoup avec ça. Mais moi, je me cachais, j'étais dans l'ombre. Et après La Légèreté, même avec La Légèreté et avec les albums suivants, je me mets beaucoup plus sur le devant. C'est-à-dire que je convoque toujours des artistes, mais c'est pas que je me considère artiste, c'est toujours un peu con de dire ça qu'on est artiste, mais
non.
Mais pour en revenir au premier degré que vous évoquiez au début, c'est ça. Je prends plus l'art au sérieux et je m'inclus là-dedans parce que finalement j'ai un métier artistique et c'est du sérieux et j'ai plus peur de le considérer comme ça.
Et on peut être dans ce sérieux sans l'esprit de sérieux.
Exactement.
De celui qui
surtout
s'écoute
pas.
Parler,
ouais,
évidemment.
Ouais, surtout pas.
Et d'ailleurs, vous avez, j'en profite au passage pour le dire, arrêtez le dessin de presse, arrêtez la question politique au fond, et pour retrouver cette jouissance, j'aurais envie de dire, du premier degré.
Exactement, et puis aussi de savourer de nouveau la lenteur, de ne plus courir après l'actualité, ne vraiment se recentrer un peu sur le métier de dessinateur, mais tout bêtement aussi les outils, le papier, l'encre, les expériences graphiques, des choses que je n'avais pas vraiment le temps de faire quand j'étais dessinatrice de presse. Et ça a été une période formidable. J'ai appris 1000 choses à 100 à l'heure avec des plus grands maîtres. Mais là, je me retrouve en fait dans la bande dessinée.
Voilà, on a pris un peu le large avec Benjamin Biolay. Donc, il n'y a pas de chanson française dans les références que vous faites évoluer. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de paysages. Et pourtant, il s'agit de ça, là, non ?
Oui, oui, bien sûr. Et des chansons, j'en écoute. Hein, oui. Oui, bien sûr. Pas quand je dessine, mais avant ou après.
Parce que quand vous dessinez, j'ai vu quelque chose d'étrange qui m'a surpris. Vous dites que parfois, les mots vous inspirent le dessin.
Oui, oui, oui.
Les mots vous inspirent des formes, en
oui,
fait.
Oui, oui, vraiment. Les mots viennent. En plus, j'ai un dessin. Comment dire, assez jeté. Enfin bon, je très très travaillé. Hein, je ne bâcle pas, mais il a une forme comme ça, jetée, spontanée. Et donc, c'est pas la calligraphie, mon écriture est manuscrite. Quand je remplis mes bulles, c'est manuscrit, ça. Donc tout ça est assez proche. En fait, mon écriture est proche de mon dessin, inversement. Donc c'est vrai que parfois certains mots m'inspirent des scènes, des formes, des gags et inversement. Ouais, tout se mélange un peu. Ouais.
Dans la légèreté, il y a une double page entière avec que des mots et on comprend comme ça, on devine un peu comment ces mots qui s'en mêlent, s'entrelacent, font jaillir à un moment l'urgence d'un dessin. C'est assez intéressant de voir ça.
Exactement. Et puis dans les mots, c'est presque du chinois. Il y a des signes, il y a des petits machins, des petits oui, c'est illisible. Et pourtant c'est comme ça que je travaille, en tout cas que je travaillais quand j'étais à Charlie, c'est-à-dire énormément de petites notes, des choses écrites comme des pattes de mouche. Et là-dedans il y a déjà des prémices de gags qui font 5 mm sur 3. Et ça va venir comme ça, ouais.
C'est intéressant. Ouais. Et alors, sans être mystique, vous nous avez envoyé, je crois, un signe à décrypter, un peu sibyllin. Dans les grands espaces et dans la légèreté apparaît le même tableau.
Oui.
Et en plus, ce tableau, c'est le tableau d'un criminel, qui est aussi peintre, qui s'appelle le Caravage. Et c'est la diseuse de Bonne Aventure. Alors j'ai essayé de déchiffrer ce signe, j'ai pas réussi.
Tant mieux, c'est bien. Il faut du mystère, il faut pas trop de.
Je précise quand même pour les auditeurs que c'est carrément du mystère parce que dans un des deux albums, il apparaît tout petit dans une double page quasiment noire. Oui. Il y a juste la lumière comme ça, en plus le Caravage, et on le retrouve dans l'autre album. On peut essayer de comprendre.
Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est dans La Légèreté, dans l'album La Légèreté. J'ai visité le Louvre en 2015. Je l'ai visité en compagnie de Sigolène Vincent, qui faisait partie de Charlie, et ma sœur Fanny qui travaille au Louvre, qui a été notre guide. Donc ça s'est passé en 2015 où on était encore tous et toutes très fragiles après l'attentat. Et on est allé voir, on est presque allé se recueillir devant le radeau de la Méduse, ce grand tableau de Géricault, parce que c'était le tableau préféré de Sigolène. Et quand Sigolène, qui était elle dans la salle de rédaction en 2015, s'est retrouvée parmi les corps, quelqu'un qui l'a vu là a cru voir le tableau de Géricault, en fait. Donc Sigolène se retrouvait finalement dans le radeau de la Méduse, dans la salle de rédaction de Charlie. Et cette vision était à la fois terrifiante et magnifique, voilà. Donc on est allé se recueillir devant ce tableau qui nous rappelait les copains de Charlie. Et puis c'était un après-midi d'hiver. Il faisait nuit déjà dehors et le Louvre était ouvert que pour cette visite particulière. Merci le Louvre. Mmh. Et en faisant trois pas à côté du radeau de la Méduse, j'ai aperçu que la grande galerie qui était au fond était dans la pénombre en fait, parce que très peu de salles étaient éclairées. Et puis, effrontés, nous sommes tous allés en catimini voir cette grande galerie dans le noir, en fait. On s'est dit, c'est la première, la dernière fois sans doute qu'on voit cette grande galerie du Louvre comme ça dans la pénombre. Et alors, ce qu'on n'a pas compris, mais qui était absolument merveilleux, c'est qu'un seul tableau était éclairé. On n'a jamais su pourquoi. Un seul tableau était éclairé, c'était le tableau du Caravage, la Diseuse de Bonaventure. Donc il faut imaginer cette grande galerie immense.
Mais dans vous le rendez bien dans l'album.
Et voilà, je l'ai dessiné dans l'album, j'ai dit ça, il faut absolument que je le dessine. Et au moment où je l'ai dessiné, je ne savais pas ce que ça signifiait. J'ai eu l'intuition de le dessiner, bon. Et beaucoup plus tard, en m'attelant à un autre album, donc Les Grands Espaces, je me suis souvenue qu'en visitant le Louvre pour la première fois avec ma grande sœur, qui à l'époque on avait 10 ans, 13 ans, le peintre qu'elle préférait, c'était le Caravage, et elle m'avait montré l'étoile du Caravage, et on s'était arrêté devant la Diseuse de Bonaventure. Et là encore, en dessinant ça dans Les Grands Espaces, je crois que j'ai pas compris pourquoi je devais le dessiner, mais je l'ai dessiné. Et alors après ça, il y a plein d'interprétations possibles. Déjà, quand on regarde ce tableau, on peut y voir, bien sûr, une diseuse de Bonaventure qui va arnaquer un jeune bourgeois, etc. Mais on voit aussi deux personnages qui se touchent les mains, qui ont un contact. L'œuvre du Caravage est magnifique, clair-obscur, bien sûr, des teintes très très belles, etc. Et puis la diseuse, quelqu'un qui dit, qui met des mots sur les choses que je n'arrivais pas à faire en 2015 après l'attentat. Et puis la Bonaventure. La fortune, le destin, voilà. Là encore, je suis pas mystique, je suis pas croyante, mais on peut voilà rêver devant mais presque chaque mot du titre de ce tableau et devant chaque objet de ce tableau, et peu importe l'intention du Caravage en fait. Et alors de savoir en plus que Caravage était criminel, etc. Ça, j'en parle en légèreté. Les ténèbres, la beauté, etc. Ouais. Voilà, tout ça. Qu'est-ce que ça nous mène où? Bonne question. En tout cas, moi, ça me fait faire des dessins.
c'est un peu trop. Vous répétez un peu trop souvent que vous n'êtes pas mystique quand même.
C'est suspect.
Dites comme ça vient.
Et vous êtes philosophe ou vous êtes psychanalyste?
Je ne sais pas. Alors, vous avez dit diseuse de Bonaventure. Oui. Et justement, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que dire, non seulement dans vos albums, mais aussi dans le rapport que vous avez eu à ce massacre. Puisque au fond, on connaît la phrase de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Mais vous dites que mal nommer les terroristes, les criminels, c'est plutôt une chose heureuse. Parce qu'ils ne méritent pas, comme ça, d'être nommés. Moi, j'ai toujours été horriblement choqué par le fait que les noms de ces gens, évidemment, je ne les nommerai pas aujourd'hui, ils font la une des journaux, on leur fait trop d'honneur, en fait, en les nommant, c'est sûrement ce qu'ils voulaient. Donc parfois, c'est bien aussi de ne pas nommer, quoi. C'est bien aussi de ne pas dire. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on dessine, d'ailleurs?
Oui, exactement. Oui, oui. Et même dans le dessin, je trouve que le flou artistique est le bienvenu. En effet, moi, ça m'arrange bien d'être dessinatrice parce que souvent les mots ne viennent pas. Bon, là, je fais un effort sur France Inter, mais le dessin vient tout englober. Je sais pas, il y a quelque chose. Je crois que le dessin me dépasse. Je crois que mon dessin a beaucoup moins con que moi, en fait. Enfin, il y a un truc comme ça de
Il y a une confiance dans la couleur, dans la forme.
Ouais, ouais, ouais. Et même si cette forme est fragile et on fait des erreurs, parfois on dessine très mal, etc. Mais il y a quand même cette confiance-là, oui.
Et ben justement, il y a quelque chose au début de la légèreté, donc je l'ai devant les yeux. C'est au tout début, donc c'est pages 8 et 9. Et justement, on a à gauche quelque chose que vous dessinez, donc c'est la plage, et puis il y a cette fille toute seule. Et puis il y a quand même quatre lignes. L'horizon est légèrement arrondi, je suis bien sur une planète, je me dis que l'océan était là en premier et qu'il est toujours là. Donc là, il y a quelques mots, pas beaucoup. Et puis sur la page de droite, on a l'impression que c'est la même chose. Sauf qu'en fait, c'est le Rodko incroyable, jaune et orange, que tout le monde connaît, plein d'énergie mystique, je crois, spirituelle, en tout cas une énergie étrange. Et en fait, ça ressemble à la page de gauche, mais sauf que c'est un tableau de la main d'un artiste qui a remplacé les paysages naturels. Et cette fois, il n'y a plus aucun mot. Il n'y a plus que la petite fille, une silhouette. Et en plus, elle est dessinée en creux, alors qu'avant, elle était dessinée en plein.
Oui.
Donc tout s'efface, ne reste que la lumière.
Exactement, et l'art, Rodko en l'occurrence, mais l'art vient parler à notre place, là, à ma place, c'est vrai que c'est exactement ça. Quand il y a quelques mots sur la page de gauche, parce qu'après 2015, je cherchais à récupérer une voix, en fait, la parole, les mots, tout était chaotique. Et finalement, le recours à la peinture était beaucoup plus riche, quoi, beaucoup plus efficace. Donc, je suis allée chercher, ce tableau de Rodko qui qui exprimait parfaitement mon désarroi. Et puis cette expérience inouïe dont je parlais au début, face aux éléments, au vent, au ciel, bah, le Rothko l'a résumé. Et puis plus loin, je fais appel à un tableau très très connu aussi de Munch, Le Cri.
Le Cri, bien sûr.
Et ouais. Alors là encore, c'est du premier degré, c'est-à-dire que j'ai poussé aucun cri en 2015, mais Munch l'a poussé pour moi.
C'est ça.
Et pendant tout l'album, je fais appel à l'art pour me redonner la parole, en fait.
Ouais, et ça rend ma question de tout à l'heure un peu déplacée, quoi. Beauté naturelle ou beauté artistique, on s'aperçoit à travers ces pages 8 et 9 de La Légèreté qu'au fond, c'est peut-être la même beauté. On va écouter Point sensible de Malik Djoudi.
Montre-moi ton point sensible.
C'était Malik Djoudi, Point sensible.
Sous le soleil de Platon.
Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous retrouvons Catherine Meurice sous le soleil de Platon. Et cet extrait assez drôle dans les jardins, là, ça me fait penser à votre album Les Grands Espaces. Il y a une scène hyper drôle où en fait... Votre mère s'énerve parce que je crois que c'est Zola, c'est ça, qui dit n'importe quoi sur le moment, sur la floraison de certaines fleurs. Il dit ça va être en hiver alors que c'est au printemps. Elle dit mais si on écoute ces mecs-là, on peut pas faire un jardin, on peut pas avoir son potager, etc.
Exactement, oui, parce que Zola parle donc du paradis, jardin merveilleux, et puis il parle là des roses et des violettes et des tournesols, machin, enfin des fleurs qui ne fleurissent pas en même temps. Voilà, certaines fleurissent au printemps, d'autres en été. Et c'est vrai que ma mère, j'ai un peu exagéré dans la BD, mais le personnage de ma mère s'énerve en disant mais n'importe quoi, voilà. Et mon personnage réagit en se demandant si Zola n'a pas mis de l'engrais.
Mais c'est vos parents, c'est vrai qu'ils allaient voler comme ça des boutures pour les replanter?
Non, pas voler.
Ils disaient emprunter.
Non, voilà. Non, pas voler. Non, mais déjà, je crois que tout le monde fait ça.
Ah bon?
Oui, j'ai plein de lecteurs et lectrices qui sont venus me voir en disant mais je fais pareil, voilà.
Mais ils faisaient quoi exactement?
Mais c'est-à-dire que quand vous baladez dans la nature ou même dans un village, etc., quand vous voyez un rosier qui déborde, qui est sur la voie publique, on va dire les choses légales, bah vous pouvez prendre un brin, vous faites une bouture et puis vous retrouvez vous avez un petit rosier un petit chez vous après.
Ouais.
Donc c'est du sauvetage. Souvent c'est du sauvetage. Parfois il y a des rosiers qui ils font la gueule, on fait une bouture, on leur donne une seconde chance. C'est pas du vol.
Ça c'est une forme de légèreté sans la gravité. C'est finalement la question que pose votre album. Hein. C'est est-ce qu'on peut arriver à une légèreté s'il n'y a pas de choses graves, est-ce qu'on peut arriver à une légèreté s'il n'y a pas de profondeur ?
Oui, j'aurais tendance à l'associer à l'humour. Alors, est-ce que c'est ouais. cette légèreté-là ? Mais l'humour, c'est... Parce que si on gratte un peu l'humour, c'est aussi échapper, à, encore une fois, à la lourdeur du monde. Donc, mais...
Oui, justement.
Mmh. Ouais, 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 ouais.
Vous savez, Nietzsche disait, nous sommes superficiels par profondeur.
Oui, oui.
Comment vous comprenez cette phrase ?
Oh là là, mais c'est un cours, c'est terrible !
C'est une question.
Oui, c'est une question. Bah, j'y vois... Oui, c'est ça, l'impossibilité d'aller au fond des choses. Sinon, on est complètement démoli par, une fois de plus, cette... par la violence du monde, en fait, c'est ça, non ? Vous parliez des boutures, des... Vous me dites si je suis hors sujet, si je mérite 0 ou 12.
Non, non, mais si vous continuez, parlez... je vais vous lancer un quiz, là. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va le faire tout de suite. Vous l'allez chercher. Catherine Meurice, Dumas ou Proust ?
Proust.
Pain ou platane ?
Platane.
Pourquoi ?
Déjà, c'est plus enraciné, c'est plus solide, ça résiste mieux au vent. Après, le platane n'est pas une essence sauvage, mais bon.
Ah oui.
Et puis bon, dans mon enfance, il y avait un platane qui s'appelle Swan.
C'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. C'était, on allait du côté de chez Swan voilà. pour faire une sieste sous le platane.
Quoi. Exactement.
Ça doit être un bon souvenir.
Oui.
Corot ou Caravage ?
Aïe, 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 ça c'est dur. Corovage.
Pas mal. Astérix ou Petit Nicolas ?
C'est terrible. Oh, je dirais Astérix qui est... Oh, je sais pas, oh, non, c'est compliqué. Astérix dessiné par Sampé.
Ok. Sampé ou Badois ?
Sampé.
Joie ou bonheur ?
Joie.
Pourquoi joie ?
J'ai l'impression que qu'elle est en nous. Peut-être très loin, mais qu'elle est en nous. Le bonheur, ça me paraît plus inaccessible, c'est compliqué, on sait jamais trop ce que ça recouvre. Mais la joie, on l'a, et en tout cas, dans mon métier, j'ai l'impression que c'est le but de mon métier, ouais, de procurer de la joie.
Ouais. Ouais. Le trait qui rend joyeux ne rend pas nécessairement heureux.
Oui.
Alors, les mots ou les images ?
Oh, les images.
Humour ou ironie ?
Humour.
Les fleurs du mal ou les fleurs des champs ?
Ah, les fleurs des champs, elles sont plus en danger que les fleurs du mal. Ah bah voilà, les fleurs du mal, ce sera réédité, réimprimé, les fleurs des champs.
Alors on y arrive à cette légèreté. Soulage ou Rothko, là on replonge.
Ouais, Rothko.
Parce que Soulage vous inspire aussi, je crois.
Beaucoup, mais là je dirais Rothko pour la couleur, tout bêtement.
Ouais. Madeleine ou Gaufre ?
Si je dis Madeleine, on va vraiment croire que je suis en couple avec Marcel Proust. Mais... Non, gaufre, parce que ça aussi, c'est un souvenir d'enfance, des gaufres en forme de cœur. J'ai encore le gaufrier, d'ailleurs, mais gaufre.
Ouais. Hôtel Meurice ou Grand Hôtel de Cabourg ?
Eh ben, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, parce que l'Hôtel Meurice, déjà, ça s'écrit pas comme moi, et surtout, il a accueilli la Gestapo pendant la guerre, donc ouais, pardon, Hôtel Meurice d'aujourd'hui. Ouais. Et l'Hôtel de Cabourg, il est un petit peu triste, je trouve.
Ouais.
Je préfère la maison de la tante Léonie.
Ah oui, c'est où, ça ?
Ah ben, c'est à Hélier-Combray.
Voilà. Merci beaucoup Catherine Meurice de vous être soumise à ce quiz. J'enlève ma casquette de professeur et je voudrais maintenant qu'on revienne sur votre parcours au sens plus vaste. Si je vous demande au fond, parmi toutes vos influences, toutes ces époques, vous avez commencé dans l'ironie, puis vous avez couvert le premier degré, vous avez fait du dessin politique, puis plus politique, vous avez été évidemment choqué, puis vous avez repris pied. Et vous avez raconté, notamment dans les grands espaces, cette enfance à la campagne, comme ça, très très belle. On sent quand même que ça vous a donné, ça vous a arrimé, quoi. Si je vous demande de quoi vous êtes l'enfant ?
Pas du silence. non, de la campagne, pourquoi pas. C'est une bonne réponse, ça.
Parce que vous êtes mise à dessiner très très tôt, ouais, et vous avez eu des prix très tôt.
Oui, mais c'était un jeu, c'était pour rigoler, ça. C'était, et d'ailleurs, avec ma sœur, on dessinait toutes les deux, ma sœur dessine aussi très bien, et souvent on avait les premiers prix.
Ouais.
C'était, on s'amusait, quoi. C'était un exercice comme un autre.
Il n'y avait pas l'épreuve d'un pouvoir, vous n'avez pas senti un pouvoir
Non,
comme
jamais
ça.
La vie, un an. Non, pas du tout. C'était, déjà, ça faisait rire les autres, les parents, la famille. Donc ça, c'était. Alors oui, on pourrait dire que c'est un pouvoir, mais j'en avais pas du tout conscience enfant. Ou alors j'ai commencé à en avoir conscience au collège, parce qu'on, voilà, j'étais pas vraiment dans le clan des cools ou des bien fringués, j'étais plutôt dans le clan des invisibles, des quelconques, et le fait de bien dessiner, ça me faisait, je pouvais rentrer dans tous les clans, quoi, au collège. Donc ça, oui, je pourrais dire avec le recul qu'il y avait un certain pouvoir, mais oui, j'ai toujours dessiné, mais comme, enfin, tous les dessinateurs vous le diront.
Je vous ai posé cette question parce que, moi, j'ai eu l'impression, mais c'est que mon impression, hein, que vous étiez beaucoup quand même l'enfant de ces lectures sous les arbres. C'est des scènes incroyables. On aimerait bien que tous nos enfants vivent ça, quoi.
Oui, mais c'est sûr que en grandissant à la campagne, on était avec ma sœur, on était toujours dehors, tout le temps. Je me suis jamais ennuyée. Enfin, je pense le dire sans vraiment, avec sincérité, je n'ai pas souvenir d'ennui. Il y avait toujours quelque chose à regarder, les arbres, les animaux de la ferme, mais aussi les animaux sauvages, guetter les chevreuils, guetter le monde sauvage, qui est très étrange quand même. Puis on sent qu'on est, on est voisins, on est colocataires, en fait. Donc ça, c'était merveilleux tout le temps. Et je retrouve aujourd'hui, quand je fais mes bandes dessinées, ce goût du merveilleux, plutôt de l'émerveillement.
De savoir ouvrir les yeux, tout simplement.
Ouais, vraiment. Et donc le dessin, très naturellement, quand vous dites que je suis une enfant de lecture, je me souviens surtout avoir regardé les images, les illustrations de toutes ces lectures. Ouais. J'étais beaucoup plus attirée par l'image et parce que les mots même me faisaient peur, les grands livres me faisaient peur. Si j'ai fait ma première bande dessinée, Mes Hommes de Lettres, c'était pour régler mes comptes avec la peur des grands auteurs. Je les ai fait descendre du pied du Panthéon et j'ai dit, allez, maintenant, on va tous rigoler ensemble. Voilà.
C'est une très bonne façon de les rencontrer.
Exactement, oui. Ouais, pour avoir moins peur d'eux. Ouais.
Alors, dans votre prochain album, qui sort en octobre 2021, La jeune femme et la mère, vous proposez une invitation au voyage avec une jeune artiste, qui vous ressemble un petit peu quand même, qui part au Japon, mais qui ne parvient pas vraiment à peindre. Elle est à la fois dans le contact avec cette nature, mais elle n'arrive pas à la peindre. Et à ceci s'ajoute que cette nature est menacée par un drame, par un tsunami.
Oui, c'est ça, ce personnage de dessinatrice qui a ma tronche, arrive au Japon et veut peindre la nature sans vraiment savoir ce que ça recouvre. Elle connaît un peu ce couple Japon-nature dont on parle souvent, mais c'est pas trop ce qu'il y a derrière. Et elle rencontre un peintre japonais qui, lui, veut peindre une femme. Il ne sait pas laquelle, il n'y arrive pas, il ne produit que des haïkus. Là, je m'inspire d'un roman japonais, Oreiller d'herbe, qui est absolument fabuleux, mais je m'en éloigne très vite pour raconter une autre fiction. Et ces deux personnages, donc la française et le japonais artiste, donc vont cheminer ensemble et vont rencontrer une jeune femme qui semble liée aux éléments naturels, qui semble lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer.
Comme un animal un peu.
Comme un animal, on ne sait pas trop qui elle est, mais elle ressemble à une jeune femme. Hein. Et tout ça me permet de faire passer toutes mes interrogations sur notre place dans la nature, notre capacité à nous émerveiller ou à observer la nature, et surtout à entrer en résonance avec elle. Et j'ai l'impression que notre vie ou notre survie dépend de ça, de cette capacité-là.
Vous vous sentez menacée quand même ?
Non, d'entrer en résonance, c'est-à-dire d'être attentif à cette nature qui nous entoure, qui n'est pas qu'un paysage qu'on contemple, qui est aussi un paysage qu'on traverse, et qui est aussi une nature qui nous embrasse, qui peut nous submerger, qui sera là sans doute après nous, parce que là, en ce moment, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humain qui habite sur cette planète. Donc cette nature, en fait, je quitte la campagne et la nature de proximité, je pourrais dire, des grands espaces, qui est la campagne poitevine, pour m'intéresser à la nature sublime, dévastatrice, nourricière, et qui c'est vraiment un sujet qui m'intéresse aujourd'hui.
Il y a une esthétique un peu nouvelle, j'ai l'impression. Vous êtes peintre ou poète, demande-t-elle à l'homme. Et il répond: avec ma boîte de peinture, j'avance lentement sur le sentier de la montagne. En respirant dans la nature le monde des poètes, je me promène, ne serait-ce qu'un instant, dans l'univers impassible. Voilà l'ivresse.
Ça, c'est un extrait du roman dont je me suis inspirée, qui est Soseki, Oreiller d'herbe de Soseki.
C'est beau, elle est belle, cette page.
Ouais, c'est très beau, et c'est ce peintre qui recherche l'inspiration, c'est-à-dire l'état dans lequel il doit se mettre pour peindre un tableau. Et il est en quête de l'évanescence des choses. Donc mon personnage français lui demande qu'est-ce que c'est. Donc il y a toute une petite
Même une oppression, la menace d'une double catastrophe quand même. Est-ce que vous pensez que la beauté elle est toujours là pour nous donner la force sous une menace, quoi? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui plane, une ombre qui vient menacer la beauté?
Oui, j'ai l'impression, une ombre cachée, mais qui est là. Et parce que il me semble que la beauté de la nature, en tout cas là, telle que je l'aborde dans cet album qui va sortir bientôt, c'est une beauté qui de la nature, c'est cette nature qui nous survivra et qui nous dépasse et qui nous survivra. Donc j'ai l'impression que la beauté sert à nous faire prendre conscience qu'on est fini et qu'elle nous donne. Oui, c'est ça, la force de profiter de la vie parce qu'on sait qu'on va finir, qu'on est mortel, quoi.
Parce qu'en même temps, chaque instant de beauté va aussi disparaître, hein, même dans la nature. Mais simplement, le simple fait que cette beauté ait été durera pour l'éternité. J'ai l'impression que c'est ça que la nature nous dit au fond.
Exactement. Ouais, ouais.
C'est pour ça qu'elle nous donne la force au fond. Ouais. Elle nous donne la force de supporter notre disparition future. Parce que devant une beauté, on se dit, OK, la lumière va changer.
Oui.
Voilà, le soir va arriver, mais ça a une valeur éternelle, en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Je pense qu'on voit ça dans certains de vos dessins, c'est assez beau.
Oui, alors, comme je vous disais, je pense que mon dessin est presque plus futé que moi. Enfin, il y a des choses qui se passent avec les couleurs, les traits qui sont parfois surprenants. Et il m'arrive de dessiner des choses dont je ne connais pas trop le sens, mais je fais confiance à mon dessin. Et puis après, au lecteur, bien sûr, quand même. Mais je crois que c'est ça, cette beauté nous dépasse, nous prolonge aussi, nous permet de nous reconnaître. Ça, j'en parlais aussi dans La Légèreté. J'avais cette impression de me reconnaître.
De reconnaissance, oui.
De reconnaissance. Et j'ai prolongé cette réflexion dans Les Grands Espaces et je la prolonge encore dans La Jeune Femme et la Mère, ouais. Parce que mon personnage français a une expérience proustienne, en fait, au sud du Japon, où elle a l'impression de revoir son enfance. Et pour moi, la beauté, c'est ça, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Catherine Noré. C'est un très joli mot de conclusion. J'ai l'embarras du choix pour essayer de résumer votre philosophie de la vie à nos auditeurs, mais je crois que c'est très beau de dire comme ça que vous faites confiance à votre dessin plus qu'à vous-même. J'ai adoré cette idée, au fond, que votre dessin est plus futé que vous-même et que vous faites davantage confiance à votre main qu'à vous-même, puis aussi au lecteur. Et puis, il y a quand même cette idée de reconnaissance. J'aurais presque envie qu'on s'arrête un peu là-dessus. Reconnaissance, c'est reconnaître ce qui est caché et qui surgit. C'est aussi gratitude, évidemment.
Exactement.
De la gratitude à l'égard de cette beauté du monde qui nous fait tant de bien.
Oui.
Et puis, reconnaissance, c'est aussi admettre qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Voilà, cette polysémie, elle est assez jolie. Je trouve qu'elle apparaît dans vos albums. Alors, n'oubliez pas La Jeune Femme et la Mère, le 21 octobre 2021. Une nouvelle invitation au voyage par Catherine Meurice, qui nous a montré qu'il y avait de la légèreté dans la profondeur, mais aussi parfois, tout court, de la belle légèreté. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Merci beaucoup, Catherine Meurice.
Merci beaucoup, Charles. Merci.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Pauline Laverdure, ça tombe bien. Hein. Programmation musicale Valentine Chedebois, illustration sonore Romain Couturier. Elle a été préparée, merci mille fois, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins, sous le soleil exactement, dans la caverne de France Inter, à 10h précisément, sous le soleil de Platon.